Vous écoutez
RMC.
Nicolas, bonjour. Rebonjour.
Oui, bonjour.
Avec
Jacques.
Nous tout à l'heure. Alors, on va parler de l'appel du 18 juin de Gaulle, qui est même classé par l'UNESCO patrimoine de l'humanité. Il a été enregistré. Comment ça s'est passé? Un taxi se gare ce jour-là.
Voilà, il est 18h, on est dans le centre de Londres. Un taxi se gare devant le siège de la BBC. Un officier français sort de ce taxi. Il en sort difficilement parce qu'il est très grand. Il mesure presque 2 mètres. Il mesure 1,96 m. Il est jeune. Pour un général, il a 49 ans, il a une cigarette au bec puisqu'il fume beaucoup, il se présente à l'accueil, il donne son nom, De Gaulle, Charles De Gaulle, et on le conduit immédiatement dans un studio d'enregistrement. Il sort un petit texte très raturé de sa serviette, il s'installe tout seul derrière le micro et il lance donc son fameux appel. Il est 18h. Les techniciens anglais l'enregistrent sur un disque à l'époque, c'est pas encore les bandes, ce sont des disques. À 20h15, les programmes en français annoncent que cet appel sera diffusé à 22h en ondes courtes et en grandes ondes, et effectivement, à 22h, ce discours historique est diffusé pour la première fois. Il sera ensuite diffusé plusieurs fois au cours des 24 heures suivantes.
Oui, malheureusement, on n'a pas gardé l'enregistrement.
Et non, parce que les Anglais...
Il n'existe plus.
Les Anglais ont effacé le disque. Oui. Pourquoi ? Pour faire des économies. Il n'y a pas de petites économies. Oui. On entend souvent la voix du général de Gaulle sur Radio Londres. Parfois, on nous dit écoutez l'appel du 18 juin, mais c'est faux. Ce sont des discours des jours suivants, souvent le discours du 22 juin. On voit aussi des images de Gaulle derrière le micro, mais ce n'est pas non plus le 18 juin. Le 18 juin, mais il n'y avait pas de photographe dans le studio.
S'il n'a pas été enregistré, comment sait-on exactement ce qui a été dit ?
Alors, bonne question, parce que c'est compliqué. Le général de Gaulle, dès qu'il a terminé d'enregistrer son appel, a fait parvenir son texte à la presse anglaise dès le 18 au soir. Et le Times de Londres, ainsi que le Daily Express, l'ont publié le 19 au matin. Et des journaux régionaux français ont pu le reprendre dans leurs éditions du soir du 19, par exemple à Marseille, le Petit Provençal. Sauf que ce texte que la presse a publié n'est pas le bon. C'est pas exactement celui qui a été prononcé à la radio.
Il y a des nuances.
Il y a des nuances importantes. Ce qui a été dit exactement à la radio ce soir-là, seuls les Suisses, les services des écoutes de l'armée suisse l'ont enregistré et scripté. Et ils l'ont traduit en allemand. Et donc, ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que ce qui fait foi, la seule preuve vraiment que l'on ait de ce qui a été dit, eh ben, c'est une retraduction de l'allemand vers le français à partir de ce texte suisse.
Ce sont les curiosités de l'histoire, ça. Ouais. Et quelle est la différence entre ces deux textes, celui qui est donné à la presse et celui qui est prononcé à la radio ?
Alors, ce sont des différences importantes, notamment la première phrase qui concerne le déshonneur du maréchal Pétain qui s'apprête à signer l'armée. Pour comprendre, il faut remonter 24 heures en arrière, le 17 juin. Donc la veille, c'est la débandade. Les Allemands sont entrés à Paris depuis 3 jours. Le gouvernement s'est réfugié à Bordeaux. De Gaulle aussi est à Bordeaux. Et Pétain va donc annoncer dans l'après-midi que l'armée française cesse les combats et veut signer l'armistice. De Gaulle ne l'accepte pas. Le 17 juin au matin, il rédige un brouillon de son appel. Puis il parvient à affréter un avion pour l'Angleterre. Il arrive à Londres dans l'après-midi du 17. Il est aussitôt reçu par le Premier ministre Winston Churchill, à qui il demande l'autorisation d'utiliser la BBC pour lancer son appel. Il veut dire non à l'armistice et oui à la poursuite de la guerre. Churchill n'est pas très convaincu par ce jeune général qu'il ne connaît pas, mais dans le doute, il accepte, à condition que De Gaulle soumette son texte d'abord au ministre des Affaires étrangères. Et c'est ce ministre, Lord Halifax, qui va lui demander des corrections. Il va notamment lui demander de retirer cette première phrase sur le déshonneur de Pétain, parce que les Anglais ne veulent pas insulter l'avenir, on ne sait jamais. Il y a peut-être encore moyen de s'entendre avec ce Pétain. Et c'est sans doute la première et la dernière fois que quelqu'un a tenu la plume de Gaulle et l'a forcé à dire quelque chose qu'il ne pensait pas, puisque dans cet appel du 18 juin, il dit que ce n'est pas forcément un déshonneur de signer l'armistice, alors qu'il pensait juste le contraire.
Alors que dit-il finalement dans cet appel ?
Alors, il ne dit pas cette fameuse phrase qu'on a tous appris à l'école. Nous n'avons perdu qu'une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Ça, c'est la phrase que tout le monde a retenue. Bah, c'est faux, elle n'est pas prononcée ce jour-là, elle sera prononcée dans les jours qui suivent. En revanche, il a une très belle formule de conclusion. Il dit « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas ». Mais le message essentiel, c'est cet appel aux soldats français. Il dit « J'invite », on a presque envie d'essayer de l'imiter, hein, mais je suis pas un très bon imitateur. J'invite les officiers français, les soldats qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes de l'industrie de l'armement à se mettre en rapport avec moi. Et tout est dans ce dernier mot, se mettre en rapport avec moi, ça veut dire je suis le chef, ralliez-vous à moi et ça va marcher. Dès le 19, les premiers Français libres arrive à Londres. Le 22 juin, comme prévu, Pétain signe l'armistice et il accepte l'occupation allemande. Et le 23, les Anglais reconnaissent de Gaulle comme le coordinateur du comité national français.
Il a Henri gagné. Vail, vous voulez ajouter quelque chose? Henri
oui. Vail. Les premiers locaux sont des locaux très exigus à Maillefer. Oui. Avant qu'il aille un peu plus tard, il y a St. Stephen House et puis après Carlton Gardens où se déroulera la cérémonie de cet après-midi. Et sa première collaboratrice, c'est Elisabeth de Miribel qui travaille à la mission économique anglaise et qui vient taper le discours. Mais pour le taper, il faut pouvoir relire le général, et ce qu'elle n'arrive pas à faire, et c'est Geoffrey de Courcelles, justement son aide de camp,
qui arrive à traduire le texte.
Et tout ça dans l'appartement de Jean Monnet, puisque dans sa première nuit à Londres, Charles de Gaulle la passe chez son ami Jean de Monnet, qui deviendra ensuite le fondateur de l'Europe.
Ouais. Et Jean Monnet, c'est lui qui avait eu l'idée de l'union franco-britannique.
Voilà. Et ben voilà. Voyons, nous avons fait le tour de l'histoire, si je puis dire.